Il est 18h à Kinshasa, 19h à Kolwezi, dans les Lualaba. Bienvenue à l'écoute de ce journal vespéral sur Radio Kapi.
Radio Kapi.
Au sommaire, des centaines de maisons démolies hier vendredi à Kolwezi par le gouvernement provincial du Lualaba, notamment dans la cellule Golf Plateau RVA. Le gouvernement provincial reproche aux propriétaires d'avoir érigé leur bâtisse dans cette zone aéroportuaire appartenant à la RVA. Les victimes annoncent détenir des documents parcellaires en bonne et due forme. Lutte contre la corruption en République démocratique du Congo. Une journée de plaidoyer sur l'appropriation de l'application Tofungola Miso en français ouvrant les yeux. C'était hier vendredi à Kinshasa. L'initiative portée par l'ASBL Dignité Humaine a réuni des députés et sénateurs membres du réseau parlementaire africain de lutte contre la corruption. Forêt et économie, sur le thème de la Journée internationale des forêts, célébrée aujourd'hui le 21 mars. À cette occasion, les écologistes RDC plaident pour une reconnaissance des efforts des communautés locales et des peuples autochtones dans la protection des forêts. Nous en parlons avec notre invité, Prince Kiangi, coordonnateur national de l'organisation Les écologistes RDC. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Jean-Claude Tsiala sur la technique et devant ce micro, Jean-Désiré Kanyama. Des centaines de maisons ont été démolies vendredi à Kolwezi par le gouvernement provincial du Lualaba, notamment dans la cellule Golf Plateau RVA. Plusieurs familles ont été contraintes de passer la nuit à la Belle Étoile. Le gouvernement provincial du Lualaba reproche à ces personnes d'avoir érigé leur bâtisse dans cette zone aéroportuaire appartenant à la régie des voies aériennes. En revanche, les victimes annoncent détenir des documents parcellaires en bonne et due forme. Le point avec Paul Mounanga.
Plusieurs biens comme des lits, des matelas, des meubles, des habits, des appareils électroménagers sont exposés dehors à la merci des intempéries dans la cellule Golf Plateau RVA dont les maisons venaient d'être démolies. Des engins sont passés à l'action ce vendredi en démolissant des maisons d'habitation sous les yeux impuissants de leurs propriétaires. Cette opération s'est faite accompagnée par des militaires et des policiers. Signalons que les victimes n'ont pas bénéficié de l'indemnisation et il n'y a pas de solution de relogement immédiate. D'après les autorités de la province du Lualaba, il est question de moderniser l'aéroport de Kolwezi et élargir sa piste pour répondre aux normes internationales. Selon les victimes, elles ont acquis légalement leur parcelle auprès des services habilités et détiennent des documents parcellaires. En février dernier, les habitants de cette cellule sont allés en justice contre l'exécutif provincial, dénonçant la menace qui pesait sur leur maison et qui devrait être démolie. Mais la cour d'appel du Lualaba avait déclaré irrécevable la requête introduite par l'avocat des habitants de la cellule Golf Plateau RVA pour défaut de qualité. Lubumbashi, Paul Mounanga, Radio Okapi.
Et puis le député national Fontaine Mangala interpelle le gouvernement congolais à travers le vice-premier ministre des Transports et Voies de Communication sur la récurrence des naufrages et autres drames sur le voie fluviale en RDC. Par une question orale avec débat déposé hier vendredi à l'Assemblée nationale, l'élu de Kisangani dans la province de la Tshopo et membre de l'Union Sacrée s'interroge sur les mesures prises pour mettre fin à cette situation alors que des pertes en vies humaines continuent d'être enregistrées. Pendant cette session consacrée au contrôle parlementaire, Fontaine Mangala espère obtenir des réponses claires du ministre afin d'éclairer l'opinion sur cette problématique. On l'écoute dans ses propos recueillis par Grâce Hamzati Massanzi.
Aujourd'hui, ce secteur fait beaucoup de dégâts humains, beaucoup de dégâts matériels. Pas plus tard, il y a quelques semaines, dans le territoire de Lukolela, on a dénombré près de 200 morts. Dans les lacs Maïndombe, il y a eu plus de 30 morts. Dans le territoire de Yaouma, plus de 30 morts il y a encore quelques semaines. Nous nous posons la question, pourquoi nos lacs, pourquoi notre fleuve devrait-il devenir le lieu où les Congolais doivent mourir? Les commissariats fluviaux qui sont gérés par le ministère des Transports sont-ils réellement à la hauteur de leur tâche ou non? Nous voudrions aussi savoir de quelle manière procède-t-il pour faire des contrôle de ces embarcations et pourquoi il y a toujours une adéquation entre les manifestes que détiennent les commissariats fluviaux et la réalité dans des embarcations. embarcations. Pourquoi toujours des surcharges alors qu'il y a des commissariats fluviaux ?
À Nitouri, une nouvelle attaque attribuée aux rebelles EDF est signalée depuis jeudi dernier dans le village d'Enzaro, à environ 90 km de Mambasa. Le bilan provisoire fait état de plus d'une dizaine de morts, plusieurs disparus, ainsi que des maisons et d'autres biens incendiés. Selon la société civile du Congo, plusieurs villages sur l'axe Mambasa-Ndouye sont désormais vidés de leurs habitants et le trafic y est interrompu. Par ailleurs, plusieurs écoles et structures sanitaires restent fermées. Reportage d'Isaac Remoyope, rendu par Richard Junior Kamunga.
Les rebelles ADF continuent de semer la terreur dans les territoires de Mambasa. Après les attaques signalées à Mouchacha, Babeswa et Pengue, ces combattants ont investi depuis mercredi la localité d'Enzaro, située en pleine forêt. Selon la société civile du Congo, ils auraient profité de l'absence des militaires pour commettre des graves violations des droits humains. Le bilan provisoire fait état de plus d'une dizaine de morts, de plusieurs personnes portées disparues, dont moins 15 motos incendiées, ainsi que des nombreuses maisons brûlées. Face à cette insécurité, les habitants des villages environnants, notamment ceux de Malembi, ont fui vers Apodo, dans la province du Haut-Ouélé. Les écoles et les structures sanitaires sont fermées, tandis que les activités économiques et agricoles sont paralysées. La société civile appelle le gouvernement à renforcer la présence des FARDC dans la zone afin de mettre fin aux tueries de ces rebelles qui continuent d'étendre leur emprise. De son côté, l'armée affirme que des opérations sont en cours dans la région.
Et puis l'occupation des villes de Goma et de Bukavu par l'AFC-123 est perçue par la base républicaine partie chère à Hugo Zala comme un signe d'un échec de la gouvernance de l'Union sacrée. Lors d'un point de presse tenu hier vendredi à Kinshasa, cette structure politique a présenté un cahier des charges visant à sortir la RDC de la crise sécuritaire, économique et politique qu'elle traverse. Dans ce document, la base républicaine préconise notamment un désengagement progressif des forces de l'AFC-M23 et des FARDC qui seraient remplacées par une force tampon de la MONUSCO. Kalem Kankou, secrétaire général en charge de la communication de la base républicaine, s'est exprimé à ce sujet au micro de Radio Okapi.
Le gouvernement rwandais doit s'engager à cesser immédiatement tout soutien et toute collaboration avec les mouvements AFC-M23 afin de faciliter le rétablissement de l'autorité de l'État sur les zones occupées par l'AFC-M23 en RDC. Le gouvernement de la RDC doit s'engager à une réforme effective de ses forces de défense et de sécurité afin d'éviter d'éventuels recours aux éléments des groupes armés non étatiques dans ses opérations militaires. Mettre en place un processus de désengagement progressif des forces de l'AFC-M23 et de repositionnement des forces loyalistes selon une approche d'occupation tampon assurée par les forces de la MONUSCO. C'est-à-dire, si les forces de l'AFC-M23 se retirent d'une position, elles seront remplacées par les éléments de la MONUSCO après une période bien déterminée. Ceci céderait la place aux forces loyalistes, à savoir les FARDC.
Au Nord Kivu, la MONUSCO vient d'apporter un appui logistique au gouvernement provincial pour accélérer les travaux d'extension de la piste de l'aéroport de Mavivi à Beni. Depuis quelques mois, le gouvernement provincial du Nord Kivu a lancé les travaux de modernisation de cet aéroport, seule porte d'entrée et de sortie aérienne dans la province depuis une année, à la suite de l'occupation de la ville de Goma par l'AFC-123. La mission onusienne vient notamment de mettre à disposition 8 camions et des engins lourds afin de permettre l'avancement rapide du chantier avant l'arrivée de la grande saison de pluie qui risque de ralentir les travaux. Les explications d'Abdourahman Ganda, chef de bureau de la MONUSCO Beni, au micro de Marcel Papimoukeba.
Le nouveau chantier de l'aéroport de Beni consiste en une extension de la piste pour aller jusqu'à 3300 mètres et puis à la construction d'un nouvel aérogare. Le gouverneur nous a sollicité pour les accompagner dans ce projet. Il nous a demandé de mettre à leur disposition 3 camions par jour avec des chauffeurs et du carburant. Nous en avons mobilisé 8. Nous avons ajouté 2 pelleteuses et puis 2 chargeurs. L'objectif, c'est de pouvoir faire avancer les travaux au maximum, le plus tôt possible, avant que la grande saison de pluie ne s'installe et qu'elle empêche l'évolution du chantier. C'est une manière pour nous de contribuer à cette œuvre du développement de la zone. Vous savez que le développement et la paix, qui est notre mandat, sont indissociables. Le gouverneur a demandé 3 mois, c'est ce que nous allons faire. Les travaux consistent au terrassement, ensuite dégager toute la latérite qui a été sortie du chantier et jusqu'au nivellement. Quand le moment de mettre le tarmac sera arrivé, on va réviser, voir notre contribution.
Chargé de la prise en charge des victimes de violences dans les territoires de Nyunzu au Tanganyika, le centre de services multisectoriels CISM fait peau neuve. Réhabilité par l'UNICEF et l'ONG Île Africa, ce bâtiment a été remis jeudi dernier aux autorités politico-sanitaires du Tanganyika à l'issue de travaux réalisés grâce au financement de l'Agence coréenne de coopération internationale COICA. La chef du service genre, famille et enfants de ce territoire encourage les victimes à venir non seulement dénoncer leurs agresseurs, mais surtout bénéficier gratuitement des soins et services offerts par le centre réhabilité. Marguerite Muzinga est au téléphone de Blaise Nongala Mayanda.
Dans notre domaine, nous sommes dans la prévention, la protection et le plaidoyer, ainsi que la promotion de la femme. Moins 10 à 13 cas, comme le médecin l'a dit, mais tous ne sont pas seulement liés au viol. Ce sont les cas que nous recevons en différents types. Ça peut être les cas des viols, agressions physiques, les mariages forcés. C'est surtout les cas qui subissent les jeunes filles, ainsi que les violences psychosociales et les violences psychologiques, émotionnelles qui touchent le mental. Quand il y a les cas des viols, par exemple des coups et blessures, la femme se présente. Elle a besoin de se rendre à la justice par manque de moyens et que la père, c'est une femme de la communauté. On l'oriente chez le maître avocat qui va prendre maintenant la charge de poursuivre son dossier. Le bâtiment ici construit, c'est en faveur de la communauté de Nyunzu. Dans toutes circonstances des VBG, ils doivent se rendre à l'hôpital. Et on continue à sensibiliser les gens pour l'opérationnalité de cette structure. C'est leur bâtiment pour leur intérêt en matière de protection.
Lutte contre la corruption en République démocratique du Congo. Une journée de plaidoyer sur l'appropriation de l'application Tofungula Miso en français, ouvrons les yeux, s'était tenue hier vendredi à Kinshasa. Elle a réuni des députés et sénateurs membres du réseau parlementaire africain de lutte contre la corruption, en sigle APNAC. Cette application numérique permet à tout citoyen congolais de dénoncer des faits de corruption de manière anonyme ou non. L'initiative est portée par l'ASBEL Dignité Humaine en partenariat avec la GIZ, la coopération allemande et l'Agence de prévention et de lutte contre la corruption, APLC. Des détails avec Grâce Hamzati Masanzi.
Selon Elodine Tamozinda, coordonnatrice de l'ASBEL Dignité Humaine, cette journée de plaidoyer s'est transformée en cadre d'échanges approfondis au regard de l'intérêt manifesté par les parlementaires. Elle appelle les Congolais à plus de vigilance et à dénoncer les faits de corruption, preuve à l'appui.
Nous parlons de corruption sous toutes leurs formes. Oui, mais c'est lorsqu'il y a enquête qu'on sait détecter et identifier ou différencier les infractions.
Pour sa part, le député Jean-Pierre Passizapamba, président de l'APNAC, invite les élus à s'approprier cette lutte afin de combattre ces fléaux qui freinent le développement du pays.
Dans mon pays, ce que j'observe, le matin, on dénonce la corruption, à midi, on corrompt, et le soir, il y a encore une autre activité. Même si vous détruisez aujourd'hui, dans 10 ans, dans 15 ans, la bonne gouvernance va vous rattraper.
De son côté, Benny-Laure Kamuiziku, coordonnatrice adjointe en charge de la détection, prévention et administration à l'APLC, rassure sur les efforts en cours. Elle encourage la population à utiliser l'application Tofungula Miso pour dénoncer les cas de corruption qu'elle qualifie de véritable cancer pour la société. À cette occasion, l'ASBEL Dignité Humaine a également présenté son plan d'action du projet avec l'ambition d'éteindre la campagne de sensibilisation dans plusieurs provinces du pays.
Par ailleurs, les habitants de la province du Sankuru devront patienter encore avant de connaître leurs nouveaux dirigeants. L'élection du gouverneur et du vice-gouverneur, initialement prévue pour le 7 avril prochain, vient d'être reportée sine die. La Commission électorale nationale indépendante parle des contraintes financières. Des explications avec Esther Ndalafina.
Dans un communiqué publié ce vendredi 20 mars, la Commission électorale nationale indépendante explique avoir réévalué le calendrier électoral. Elle affirme ne pas disposer des moyens financiers nécessaires pour poursuivre les activités opérationnelles liées à ce scrutin. Conformément à l'article 166 de la loi électorale, la CENI est tenue d'organiser l'élection dans les 15 jours avant la publication de la liste définitive des candidats prévue le 23 mars. Mais l'institution souligne que la poursuite du processus dépend de la mise à disposition des fonds, signalant qu'à ce jour, 11 dossiers jugés conformes ont été déposés pour la course au gouvernorat et au vice-gouvernorat du Sankoro. Esther Ndalafina Mbujimayi, Radio Okapi.
Et puis, au Nord Kivu, les organisations locales engagées dans la conservation de la nature demandent un appui urgent en faveur de la réserve naturelle de Sarambwe, située à Rutshuru, dans le groupement de Binza, à la frontière avec l'Ouganda. Ce sanctuaire de 10 km carrés est un pont vital pour les gorilles des montagnes entre le parc national de Virunga en RDC et le parc de Bwindi en Ouganda. Pourtant, aujourd'hui, cette réserve est totalement abandonnée. Même les populations riveraines ne tirent aucun profit de sa conservation. Ces organisations demandent un engagement urgent du gouvernement et de ses partenaires en faveur de cette réserve. Plus d'explications avec Rosalie Zawadi.
Selon l'Association des jeunes pour le développement de Sarambwe, les communautés locales veulent voir des actions concrètes pour les encourager à continuer à préserver ces terres protégées. Mouindo Kibunga Elias est membre de cette organisation des jeunes.
Ces populations autochtones et riveraines locales n'ont jamais bénéficié vraiment des projets qui suscitent leur attention, de bien accompagner la conservation. Et au niveau local, nous plaidons vraiment pour qu'il y ait construction d'abord des infrastructures au niveau local. Les infrastructures routières, la construction d'un centre de santé de référence pour que les autochtones locaux puissent accéder aux soins de première nécessité.
Sur place, la population demande aussi le réaménagement des écoles, la construction d'une centrale hydroélectrique, mais aussi l'appui aux activités d'agriculture et d'élevage. Tout ceci passe par la création d'un fonds spécial pour Sarambwe, un fonds soutenu par le gouvernement et les partenaires internationaux pour transformer enfin la protection de la nature en développement réel dans cette zone. Notons que Sarambwe n'abrite pas seulement les célèbres gorilles des montagnes. Ces sanctuaires protège aussi des chimpanzés et des dizaines d'espèces d'oiseaux qui font de cette forêt un trésor de biodiversité en RDC. Goma, Rosalie Zawadi, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Face aux attaques des groupes djihadistes et aux risques considérés comme élevés d'enlèvement des ressortissants étrangers dans le pays, Berlin a décidé de relocaliser les personnels de sa représentation diplomatique au Niger. Pour toute démarche depuis Niamey, il convient désormais de se retourner vers l'ambassade de l'Allemagne à Ouagadougou, au Burkina Faso.
L'invité.
Forêt et économie, thème de la Journée internationale des forêts, célébrée ce 21 mars. À cette occasion, l'organisation Les Écologistes RDC plaide pour une reconnaissance concrète des efforts fournis par les communautés locales et les peuples autochtones dans la protection de nos forêts. Nous recevons à ce sujet Prince Kiangi, coordonnateur de cette organisation. Il répond aux questions de Rosalie Zawadi.
Prince Kiangi, bonjour.
Oui, bonjour.
Qu'est-ce qui justifie cette demande que vous venez d'adresser au ministre de l'Environnement?
En effet, comme nous allons globalement parler des forêts, nous sommes dans l'obligation de parler des personnes qui conservent et qui protègent les forêts. Voilà pourquoi je me suis adressé à son Excellence Madame le ministre de l'Environnement pour dire que à cette occasion, il faudra ce que nous puissions exprimer nos sentiments de gratitude et de reconnaissance aux communautés locales et aux peuples autochtones pygmées. Parce que si aujourd'hui la RDC est reconnue comme pays solution en matière de lutte contre le changement climatique, c'est évidemment parce que nous avons des grandes forêts, des forêts primaires. Et ceux qui gardent ces forêts, ce sont les communautés locales et le peuple autochtone. Ce n'est pas dans nos bureaux climatisés où nous conservons les forêts, mais les forêts sont conservées et gardées par des communautés locales et de peuples autochtones pygmées. Que donc, lorsqu'il s'agit d'une journée internationale, en tout cas, j'estime que c'est une journée dédiée aux communautés locales et aux peuples autochtones pygmées. Voilà pourquoi je me suis adressé à madame, pour que ces communautés se retrouvent dans la célébration de cette activité, qu'on ne se limite pas dans des bureaux dans la célébration, sur des chaînes de télévision, mais que ces communautés, ces peuples autochtones, jouissent des retombées de la conservation des forêts.
Qu'est-ce qui devrait être fait concrètement selon vous?
Il y a de l'argent qui est donné aux États qui conservent des forêts pour que ça soit une contrepartie de la conservation. Aujourd'hui, si nous parlons des forêts comme journée internationale, nous voulons que le gouvernement sache qu'il y a des personnes qui travaillent, qui conservent et qui protègent. Et que ces personnes-là, nous devons investir dans leur développement. Que ces communautés trouvent des alternatives à la forêt, parce que ces communautés se privent de tout avantage issu des forêts parce que nous conservons afin que le monde respire. Alors, ces personnes qui nous donnent de l'air frais, mais pourquoi, à l'occasion de la célébration, nous n'avons pas d'intention particulière sur eux? Voilà pourquoi je demande au gouvernement de faire quelque chose. D'abord, un message qui exprime nos sentiments de satisfaction et de reconnaissance à toutes ces populations, mais également développer des projets intégrateurs, des projets de développement dans les milliers de vies de ces communautés-là. Qu'elles sachent que c'est parce que nous conservons, c'est parce que nous protégeons les forêts que nous avons tel projet au sein de la communauté. Et ça motive les membres de la communauté à conserver davantage et à protéger les forêts.
Mais avant cette reconnaissance que vous demandez de la part du gouvernement, ces populations, à la base, qu'est-ce qu'elles tirent comme avantage de la protection de la forêt?
Tout naturellement. Quand les communautés protègent et conservent les forêts, ces communautés savent que la vie de l'homme est liée à l'existence des forêts. C'est des forêts que nous trouvons des bois pour nous construire des maisons. Si nous pouvons trouver à manger, les chenilles, les champignons, tout ça c'est dans la forêt. Mais aussi, il faut retenir que c'est dans la forêt qu'il y a des activités d'exploitation minière. Que donc, même si les communautés s'organisent à ne pas détruire la forêt, mais nous reconnaissons que même la richesse du sous-sol se trouve être dans la forêt. Mais également, par exemple, sur le plan culturel, on est coutumier. On sait que toutes les cérémonies coutumières, traditionnelles, s'organisent dans la forêt. C'est à partir de la forêt que nous parlons à des aïeux. Aussi, il faut retenir que sur le plan sanitaire et médicinal, tout est tiré de la forêt.
Et quels sont les défis de la conservation des forêts dans l'est de la RDC?
Il y a des défis énormes. D'abord, il faut reconnaître que la plupart de ces communautés locales sont pauvres. Cette pauvreté pousse certains membres des communautés à envahir la forêt. Parce que je vois des gens qui s'adonnent à la coupe abusive des arbres, parce qu'évidemment, il n'y a pas de projet alternatif. Lorsqu'il n'y a pas du courant, c'est pourquoi on félicite même Virunga SARL, lorsqu'on produit du courant en faveur de ces communautés-là. Et là, on réduit les menaces des communautés sur la forêt. Alors, là où il n'y a pas de projet alternatif comme celui-là, c'est-à-dire que les communautés vont s'attaquer à la forêt. Mais l'autre défi, par exemple dans la région ici, c'est l'aspect sécuritaire. La situation sécuritaire qui date depuis plus de 20 ans. Parce que ces hommes qui sont en brousse, personne n'a le contrôle sur eux. Que donc, leur moyen de survie, c'est la forêt. Et que donc, tant qu'on n'aura pas la paix dans nos villages, en tout cas, la forêt sera toujours exposée.
Monsieur Prince Kihangi, merci.
Bien, merci.
C'était notre invité, Prince Kihangi, coordonnateur de l'organisation Les Écologistes RDC. Il répondait à Goma aux questions de Rosalie Zawadi. Fin de ce journal qui a été supervisé par Jude Mister Bilanda. Jean-Claude Tsiala a assuré la technique et Jean-Désiré Kanyama vous l'a présenté. Merci pour votre fidélité à Radio Okapi. Bonsoir chez vous.